Et non, nous ne sommes pas des terroristes, ma bonne dame. Divergence numérique en direct sur les ondes de Radio Larzac. Bonjour Pascal.
Bonjour Gilles, bonjour à toutes et à tous. Non, vaut mieux pas être des terroristes avec tous les camps militaires que j'ai vus au passage.
Et oui, car Pascal, tu es venu exprès ici à Radio Larzac pour participer à cette exceptionnelle divergence numérique, car moi j'y étais déjà, puisque c'est dans le cadre d'une formation sur l'excellent logiciel Ardour dispensé ici chez nos amis de Radio Larzac par d'autres amis de Radio Résivaudan que se passe donc cette 164e divergence numérique pour laquelle nous saluons bien évidemment ceux qui nous écoutent sur le 103.3, le 102 ou le 104.1 de Radio Escapade.
Et sur le 93.9 de Divergence FM aussi.
Et oui, ça déchire. Donc on parlera de quoi après la revue de presse de l'April pour cette 13e semaine. On aura René-Pierre Guillaumont qui est un membre de la rue de Zel. Ils seront bientôt les maîtres du monde et organiseront les RMLL sans doute à Rodez très prochainement. Mais tout ça, c'est pour plus tard. Et puis on aura de quoi parler avec Ardour, avec Diad Art et Développement, avec du collectage de contes traditionnels au Maroc, et ainsi que le Moineau Phonique, qui est un des projets de nos deux formatrices, Eve Grimbert et Louise Plantrou, qui seront donc avec nous, ainsi qu'avec Kat et d'autres membres de Radio Larzac. Et puis côté musique, eh bien on fera un clin d'œil au festival Hybride.
Et oui, parce que tu as découvert par hasard, dirons-nous, que notre artiste du jour est un rappeur franco-libanais, fait aussi de la musique sous licence Creative Commons.
Voilà, c'était justement en préparant le Café Babel de la semaine prochaine, qui se tient autour du festival Hybride à Montpellier, que je me suis rendu compte que Reyes Beck, c'est son nom, avait toutes ses musiques en Creative Commons by NCND 3.0, si ma mémoire ne me trompe pas tout à fait, mais je me rends compte que je n'ai pas mis le lien vers la licence, ce qui est très mal. Alors, on va profiter de la revue de presse de l'April pour corriger tout ça. On se retrouve donc dans une petite quinzaine de minutes.
Liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
L'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
De l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de poutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 13, année 2013. Salut Manu.
Salut Luc.
Le sommaire de cette petite revue de presse.
Petite, on doit avoir une vingtaine d'articles en tout, 7 principaux, comme d'habitude. Donc là, on va vous parler de brevets logiciels, de libre en entreprise, du Document Freedom Day, Microsoft qui a des soucis avec les utilisateurs espagnols et l'UEFI, ça fait plaisir. La prochaine génération de bidouilleurs dont on va vous parler comment les former, la technologie et Internet, et pour finir, on reparle, encore une fois, du Québec et de tout ce qui se passe là-bas avec les logiciels libres.
Google Blog, la position de Google sur les brevets et l'open source, un article de Duane Valls, donc traduit par Framalang.
Voilà, avec en chapeau un commentaire de Gibus, notre grand spécialiste universel.
Oui, qui a fait la relecture, et bon, on va garder le commentaire peut-être pour la fin. On va d'abord parler de l'article en lui-même. Donc la grande nouvelle, c'est Google, dont on sait que depuis au moins 2 ans, ils sont dans des guerres de brevets infinies avec Apple et avec d'autres.
Oui, parce qu'il y en a plein qui voient qu'ils ont de l'argent et beaucoup de pouvoir avec Android notamment.
Et donc ils se font attaquer sur ces bases. On rappelle le brevet logiciel, c'est quelque chose qui existe en Amérique du Nord et dans d'autres pays, qui est arrivé de façon larvée en Europe et qui nous menace pas mal et qui permet de verrouiller une idée.
Et en informatique, les idées, on en a pléthore, et donc dans un même logiciel, on peut vraiment en avoir des milliers. On est vraiment bloqué. Derrière, c'est pire qu'un troll, enfin, c'est quelqu'un qui vous tape sur la tête légalement et on perd à chaque coup. Et là, pour le coup, ils ont trouvé une solution et ils s'approchent de l'OPN, dont tu peux nous parler peut-être.
L'OPN, c'est l'Open Patent Non-Assertion Pledge, donc engagement ouvert de non-application des brevets. Donc en gros, Google dit, on a des brevets dans notre besace, mais on les gardera uniquement si on nous attaque sur cette base-là, donc pour faire une contre-offensive.
Alors c'est même un peu plus précis encore, ils disent voilà, si vous faites du libre, vous avez le droit de l'utiliser, d'utiliser ces brevets pour développer, mais aussi dans le cadre de la redistribution.
Les technologies couvertes par ces brevets.
Voilà. Et donc c'est très très intéressant pour nous parce que ça nous permet de rentrer dans un cadre de passage de droit, quelque chose qu'on connaît assez bien avec le copyleft. Bon, par contre, il y a un petit souci, c'est que si vous prenez du logiciel libre et que vous le propriétarisez, on va dire, peut-être à la manière que fait Apple avec plein de logiciels libres.
Mais oui, parce qu'on rappelle que Mac OS X, c'est le noyau, c'est une base de BSD à l'origine.
Et ils en ont plein d'autres, hein, WebKit et Safari. Eh bien là, pour le coup, s'ils veulent attaquer Google et se baser un petit peu sur ces logiciels, ça peut leur créer des problèmes. eux-mêmes bah, ne seront pas couverts par ce pledge, a priori.
Donc le commentaire de Gibus là-dessus, il tombe sous le sens, hein, c'est que ça démontre l'absurdité du brevet, et que bah, ce système, qui rappelle les choses qui avaient été faites par Twitter, qui avait fait une sorte de charte par rapport à ces développeurs, et notamment ceux qui voulaient pouvoir embaucher, et qui disaient que justement, ils s'engageaient à n'utiliser leur brevet que de façon défensive, et que donc du coup, ils étaient une boîte cool dans laquelle on avait envie de travailler, parce qu'on n'était pas dans des, voilà, des grosses machines qui...
Des vautours, hein,
voilà,
tu peux
des gros vautours, et ce qui déplaît pas mal à pas mal de développeurs. Donc c'est un peu cette démarche-là, et donc bah, Gibus souligne que c'est plutôt un pas intéressant, mais qu'en revanche, bah, voilà, ça démontre bien l'absurdité de faire du brevet logiciel.
Alors il va même un peu plus loin, il dit, voilà, Richard Stallman a fait une proposition encore plus forte, qui consiste à dire que les brevets logiciels ne devraient pas s'appliquer aux développeurs et aux utilisateurs, donc ce serait encore plus souhaitable, et on pourrait le faire dans la loi aujourd'hui. Mais bon, c'est vrai que c'est déjà pas mal du tout.
Le MagIT, Linux en entreprise, dopé par le cloud, un article de Cyril Chausson. Donc encore un article sur entreprise, cloud, tout ça, ça revient régulièrement quand même.
Ça revient régulièrement, ce coup-ci c'est pas une boîte qui en parle, c'est la Linux Foundation, donc qui a pas mal de boîtes comme adhérents, il faut avouer. Et là,
bah, c'est un gros truc, oui.
C'est un très gros truc, et il cite des chiffres. En gros, on peut dire que 75% des entreprises, des grosses entreprises, parmi celles qu'ils ont été voir, utilisent déjà du libre, et ils l'utilisent en grande partie pour faire du cloud, donc des infrastructures, des services, des choses qu'on utilise par Internet. Donc c'est quelque chose d'assez encourageant, parce qu'à côté de ça, l'utilisation de Unix, une sorte de vieux Linux, on pourrait dire, et surtout de Windows, est très délaissée dans les entreprises. Les projets sont pas là.
On a peu qui l'utilisent, et dans ceux qui l'utilisent, il y en a pas beaucoup aussi qui envisagent de faire de nouveaux projets avec ça. Donc c'est effectivement un très grand succès. On sait que sur le poste de travail, Linux reste très minoritaire. En revanche, sur toutes les applications serveurs, c'est vraiment l'explosion. ZDNet, document Freedom Day, pour promouvoir les formats ouverts, un article de Thierry Noisette.
Donc c'est traduit, bah, c'est traduit par l'April, donc il nous cite abondamment dans le texte. Donc comment toi tu peux le traduire ?
Alors moi non, mais nous, l'April, on a donc traduit ça en journée de libération des documents. Ça fait moins branché peut-être.
Non, mais par contre, on se demande, parce que ça veut dire quoi ? Je dois sortir toutes mes docs et les jeter par la fenêtre ?
Non, non, voilà. L'objet, c'est de sensibiliser sur l'importance d'avoir des formats ouverts, des documents qu'on puisse lire et dont on connaisse le fonctionnement technique, et donc pour ne pas être enfermé dans l'utilisation de ces fichiers par telle ou telle solution qui ne sera pas nécessairement pérenne dans le temps ou qui ne sera pas facilement utilisable avec une autre solution technique.
Donc je rappelle aussi, il y a un poster qui est pas mal du tout qu'on fait à l'April et qui permet de montrer un petit peu tout ça.
Qui est cité dans l'article.
Qui est cité dans l'article, et ça fait plaisir. Mais surtout, il y a des citations, alors moi j'aime bien, c'est Stephen Fry, qui est un grand comédien reconnu, anglais, qui dit, voilà, il faut être capable d'utiliser du libre. Alors la citation exacte, il est temps une fois pour toutes d'en finir avec l'absurdité inutile qu'un document envoyé sur une plateforme soit incompréhensible pour l'utilisateur d'une autre.
Aujourd'hui, c'est un peu une habitude sur certaines plateformes. Or, voilà, il n'y a aucune justification technique à ça. C'est juste pour vous coincer et être sûr que vous restiez dans le giron de votre fournisseur.
Cette journée a commencé en 2008, on pourrait dire. On la retrouve tous les ans. Donc, c'est quoi la date ?
La date, c'est le 27 mars, donc c'est passé.
Donc, c'est passé, mais préparez-vous pour l'année prochaine. Il faut en parler un petit peu autour de soi, association, entreprise. Il ne faut pas oublier les documents. C'est ce qu'on garde dans le futur, pour le futur. Il faut être capable soi-même de les relire. Donc, il n'y a rien de tel que de libérer les formats et s'assurer d'utiliser des standards.
01net, Microsoft attaqué par des défenseurs espagnols des logiciels open source, un article de Pierre Fontaine.
Ça y est, c'est les Espagnols qui se réveillent et qui attaquent.
C'est sur cette question de Secure Boot qu'on a abondamment cité et qui a été fait l'objet de pas mal d'articles ces derniers mois.
Aussi appelé UEFI, ça veut rien dire, enfin c'est un peu lourd. Hein.
Bah, l'article a une partie sur vraiment cette action des Espagnols et une autre partie qui vraiment présente le point du Microsoft. Donc on ne les sent pas très partisans, peut-être même un petit peu partisans de Microsoft. On ne sait pas trop.
Moi, j'avoue, j'apprécie quand même. Ils attaquent auprès de la Commission européenne, si je comprends bien. Ils attaquent sur les notions de monopole. Microsoft bloque le démarrage de votre ordinateur si vous mettez un système d'exploitation qui n'a pas été signé par...
Microsoft.
Voilà, c'est beau. Donc là, effectivement, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a une forme de monopole. On bloque le démarrage des autres, bah, c'est pas très sympa.
Voilà, pour se défendre, eux disent « Ah mais non, non, l'UEFI, le Secure Boot, c'est pas du tout une fonction de Windows 8, c'est une fonction de l'ordinateur, donc il n'y a pas de problème. »
Oui, c'est juste que c'est eux qui le font, qui signent tous les
voilà,
systèmes d'exploitation.
Ils utilisent donc leur poids prédominant sur le marché des ordinateurs pour amener tous les constructeurs à mettre ce système en place. On en a déjà parlé, on sait que ça peut poser tas de problèmes et que le contournement n'est pas nécessairement facile. Bon, bah, cette procédure est vraiment la bienvenue.
Donc, ce qu'on peut en espérer, c'est qu'au minimum, les fabricants permettent la désactivation du Secure Boot et que Windows, à côté, s'il voit que l'ordinateur n'a pas de Secure Boot, puisse quand même démarrer, surtout s'il a été désactivé explicitement par le client, l'utilisateur.
Voilà. Mais encore faut-il que ce soit facile à faire et un peu standardisé, de telle sorte qu'on puisse s'adapter et qu'on puisse continuer à faire des distributions faciles à installer. Opensource.com, former la prochaine génération de bidouilleurs libres, un article de Dave Neary, donc traduit par Framalang.
Et oui, ils font beaucoup de bonnes choses, diffusées sur le Framablog. Donc là, on parle de l'éducation de nos chères petites têtes blondes et comment on peut leur implanter la bidouillabilité qui est très proche du libre.
C'est une réflexion d'un hacker qui est également père de famille et qui a 3 enfants, qui se dit comment je vais faire pour leur faire découvrir tout cet univers. Donc il a toute une série de conseils, notamment des trucs pour leur permettre d'avoir la main sur la décoration ou l'organisation de leur chambre.
Et il a l'air de dire c'est pas toujours top, hein. Moi ça me ferait peur.
Puis bon, toute une série d'autres choses, des jeux éducatifs, des jeux de construction comme les Lego, le fait de pouvoir apprendre à se servir d'un fer à souder, de bidouiller leurs jouets cassés.
Il va même jusqu'à leur filer à chacun, à partir de 7 ans, un couteau.
Oui, pour pouvoir couper des ficelles et commencer à bricoler.
A priori, des bonnes idées. Moi, j'avoue que ça me fait un peu bizarre. Et il recommande aussi de laisser traîner des outils pour faire en sorte, on tombe sur un tournevis facilement pour pouvoir démonter ses jouets, par exemple. Moi, j'avoue qu'il y a un côté bordel qui m'inquiète, mais c'est vrai qu'il est de base.
C'est
pas
parce
mal.
Que t'es un petit peu monomaniaque. Mais...
Non, il faut juste chaque chose à sa place. Et donc, c'est important qu'on la retrouve. Mais moyennant le fait de faire des ombres autour de chaque outil sur une planche à outils, je suis à fond partant pour ce genre de choses.
Internet Actu, la technologie est-elle toujours la solution ? Le biais de l'internet, centrisme. Donc c'est un article de toute façon, il y a 2 articles dans la série, c'est le premier article de Hubert Guillot.
Voilà, c'est le premier qui parle un petit peu de nos sujets, c'est pour ça qu'on l'a gardé dans l'article presse.
C'est un article donc qui parle d'un livre de d'autres auteurs qui prennent un point de vue assez différent de celui qu'on peut défendre habituellement sur internet et l'importance d'internet dans la société et la façon dont elle transforme.
Donc notamment un des auteurs est biélorusse et il s'appelle, je te laisse le lire.
Non. Son nom de famille, en tout cas, Morozov, son prénom...
Moi, je dirais Evgeny ou Eugénie. Il a une bonne tête, on voit ce qui est à l'écran, enfin, on voit une photo.
Et oui. Et donc, bon, le propos général est de dire qu'il y a une sorte, selon lui, d'angélisme, d'internet-centrisme autour de ça, où on voit une forme de modèle idéal venu d'Internet et que les fans d'Internet voudraient caler partout et voudraient le prendre comme exemple pour l'adapter à tous les aspects de la vie et de la société.
Donc on peut citer, il n'y a plus de hiérarchie, tout est à plat, il y a un réseau entre les personnes, on est autorisé à tout, même si on garde un historique. Donc ça fait partie de ces choses. La communication peut être instantanée, peut être rapide, peut être en tous. Il n'y a pas de blocage institutionnel.
L'auteur rappelle que dans la société, il y a des intérêts divergents, il y a des rapports de pouvoir, des rapports de force, et que cette vision angéliste de l'Internet, finalement, c'est ce qui va mener potentiellement une nouvelle élite à prendre le pouvoir. Et donc voilà, moi, ce que je reproche un petit peu à ça, le propos est quand même très intéressant parce que ça soulève des points de vue intéressants.
C'est complexe. Hein, moi, j'avoue, j'ai dû le relire pour vraiment essayer de choper l'idée.
Il s'oppose à des gourous d'Internet, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ont cette vision très évangéliste en disant hop hop hop, c'est la révolution.
Oui, quasiment une vision de fin de l'histoire où il n'y a plus grand chose comme enjeu si on applique Internet et les principes d'Internet au régime.
Je dirais que sur n'importe quel idéal, on a ça. Hein, en 89, 90, quand le mur de Berlin est tombé, il y a des libéraux qui ont dit ça y est, c'est la victoire du système.
Du bien.
Du bien et du système capitaliste, et on va arriver vers une société apaisée où tout va bien se passer. Mais on voit où on en est aujourd'hui. Ce qui manque là-dedans, enfin, en tout cas, de ce qu'on en comprend, c'est une étude des cas particuliers, puisque, à un moment, il parle de Wikipédia, par exemple, où il dit qu'effectivement, c'est une foire d'empoigne où il y a des rapports de force, des guerres d'édition.
Oui, il descend le modèle, en grande partie.
Oui, le truc, c'est que n'importe quel contributeur à des projets libres sait que ça se passe comme ça et que l'angélisme autour du système ouvert, du système libre, c'est un peu le fait de gens qui n'ont pas les mains dedans. Et dans le logiciel libre, on a bientôt 30 ans de recul. On a une communauté et des activités qui sont formées avant Internet et qui ont été modifiées, qui ont modifié l'Internet et qui ont été modifiées par lui. Et on sait que c'est tendu, que c'est pas facile, qu'il y a des rapports de pouvoir, effectivement, que ça se frite, qu'il y a des histoires d'argent aussi, puisqu'il y a quand même des boîtes qui font pas mal de business.
Je rajouterais, il y a une pensée qui dit que l'Internet a été créé par le libre pour Bah, c'est un système à deux, hein, donc, oui. Mais c'est une évolution qui a été concurrente.
Voilà, donc bon, c'est une vision qui, à mon sens, est juste sur effectivement des gens qui ont une vision très, très angélique du truc. Et ça m'est arrivé d'en rencontrer et de discuter assez violemment avec, parce qu'effectivement, il faut de la nuance et tout ça. Donc au moins, c'est l'intérêt de cet article-là, c'est de dire ne partons pas naïvement sur une vision un peu neuneux du machin. Quoi.
Donc intéressant, allez jeter un œil si vous voulez avoir des billes pour... envisager le futur, justement l'envisager en voyant la place d'Internet, ce qu'il apporte, mais ce qu'il ne faut pas en faire de trop.
Le Devoir.com, la lente et difficile ascension du logiciel libre dans l'appareil gouvernemental, un article de Fabien Déglise. Alors cet article, il est vachement bien parce que on parle du cas québécois depuis un petit moment, et là c'est vraiment un récapitulatif. On n'est pas dans l'actualité pure et dure, ça refait un petit historique, notamment en précisant chose qui nous avait échappé dans les articles précédents, qu'il y a eu une décision de justice il y a quelques années,
en
2010, qui disait que effectivement le gouvernement québécois devrait jouer la concurrence et penser au libre.
Oui, au niveau de ses marchés publics, hein, donc des enjeux et des sommes assez conséquentes.
Et l'article précise, rappelle que le gouvernement québécois ne l'a pas fait, a mis en place des décrets pour contourner les lois et les décisions.
Pire
pour...
que ça, qu'il y a eu des changements de gouvernement et que les gens qui étaient opposés à ces décrets, eh bien, non seulement ils les appliquent, mais ils en refont des nouveaux en favorisant du propriétaire.
Et on parlait la semaine dernière de la mise en place d'un centre de ressources et le fait que la communauté du logiciel libre en place voit ça d'un œil circonspect en pensant que voilà, c'était un peu de la poudre aux yeux et que ça servait à faire passer la pilule. Donc voilà, l'article est intéressant, ça permet vraiment de faire le point sur la situation au Québec.
Bon, sur ce, je te dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, normalement on devrait voir Nicolas qui sera de retour la semaine prochaine, il m'a promis ça.
Oui, il a terminé avec ses mises en prod, on espère en tout cas.
Et moi donc, salut tout le monde et à la semaine prochaine.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'APRIL, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fiévet et Nicolas Vineau.
Et on les remercie les trois mousquetaires de la revue de presse de l'April. Le troisième mousquetaire reviendra très probablement la semaine prochaine dans cette 164e divergence numérique. C'est à présent René-Pierre Guillaumont qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors, tu es membre de la Rue de Zelle, l'association Rouergat des utilisateurs de logiciels libres, donc un groupement d'utilisateurs Linux donc qui est né en mai 2007. Et là, vous avez pas mal d'actions, on va parler du 6 avril et puis aussi du 12 avril. Peut-être faire un petit point sur cette association née en 2007 qui organise des rendez-vous de plus en plus réguliers, voire même est invitée dans des écoles ou arrive à faire des actions aussi avec certaines institutions. Donc c'est plutôt un mouvement, j'allais dire, une association qui se développe.
Oui, on est en plein développement, surtout qu'on a commencé petit. On n'était que 3 ou 4 au départ. Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, on a commencé. Le but de l'association étant de développer l'utilisation du logiciel libre comme Firefox, LibreOffice, Linux s'il le faut et autres. On essaye d'expliquer aux gens les avantages nombreux du logiciel libre par rapport au logiciel propriétaire et puis surtout de les aider à passer le cap, de passer sur des logiciels libres. Donc pour ça, on fait... une rencontre par semaine dans des locaux qui sont mis à disposition maintenant par la mairie de Rodez depuis que la maison des associations existe à Rodez. Et donc c'est tout récent parce que ça fait 6 mois seulement que c'est disponible pour nous. Donc ça nous permet de faire des rencontres régulières dans lesquelles tous les jeudis soirs on organise une conférence et en plus on peut aider les gens à paramétrer, installer, toucher du doigt un peu le logiciel libre dans son ensemble ou l'installation des logiciels libres aussi, quoi. Mmh. Les conférences sont plutôt axées sur l'utilisation, essayer de sensibiliser les gens aussi à protéger leur réseau, parce que dans le cadre de la loi Hadopi, tout un chacun est devenu administrateur réseau du jour au lendemain, donc il faut maintenant expliquer aux gens comment une livebox ça se protège et autres, ce qui n'est pas commun. Donc, on a beau dire aux gens, c'est vous les administrateurs réseau, c'est quand même un métier à la base, et donc il faut expliquer aux gens comment on protège ça. Alors on le fait par des petites mises en scène, comme on craque en Wi-Fi, en clé web, pour leur expliquer que c'est facile, et puis derrière on va attaquer une machine Windows, parce que c'est plus facile que d'autres, et on leur montre ce qu'on peut faire rapidement. Aujourd'hui, un script qui dit peut faire ça rapidement. Donc, pour aider derrière à sensibiliser les gens à la protection et mettre en place des protections plus évoluées. Mmh.
Donc il y a pas mal de monde qui viennent à vos rendez-vous. C'est plutôt stable, même si petit à petit, il y a certains événements qui font que il y a quand même une augmentation régulière. Je pensais notamment quand vous avez été invité à Millau dans une école où là il y avait 450 personnes.
Voilà, lors des install parties, il arrive qu'on ait beaucoup de monde et ça s'est super bien passé sur Millau justement, où on était plus que correctement accueillis. Les locaux étaient déjà câblés au niveau réseau. On a mis un serveur PXE. Techniquement, ça veut dire qu'on pouvait envoyer des installations facilement sur les PC qui sont arrivés. Voilà. Bon, après, on fait aussi des rencontres. Donc, comme tu le disais, par exemple, le 6, c'est-à-dire samedi, on va faire une rencontre à la MDA dans le cadre du Libre en Fête. On n'a pas pu le faire avant puisqu'on n'avait pas les locaux, tout ça. Donc, on le fait, nous, le 6 avril. Et donc, on va faire de 11h à 17h. C'est festif. Les gens viennent avec un petit sandwich ou autre. Ils pourront manger avec nous. Et en même temps, l'après-midi, on fait 3 confs. Une sur présentation d'un Linux, Ubuntu en l'occurrence, avec on montre comment on peut l'installer soi-même, le paramétrer, etc. Une autre sur l'utilisation d'un logiciel pour gérer sa phonothèque, on va dire, donc concurrent à iTunes et à Windows Media Player, donc plutôt sur le monde libre, nous. Et un dernier qui est le cracking Wi-Fi, surtout pour expliquer aux gens qu'il faut passer sur WPA2, donc qu'est-ce que ça veut dire, explication de texte, etc. Et en parallèle de ces 3 confs, on fera aussi une install party pour les gens qui ont envie qu'on leur installe Ubuntu en parallèle ou à la place d'eux. On pourra le faire, et voilà.
Voilà, donc ça c'est pour ce samedi 6, donc avec Stéphane Delabrusse qui présentera Ubuntu pour démystifier Linux, Michel Puech pour le côté musique, et puis toi-même qui présentera cette conf sur surveiller votre Wi-Fi. Voilà. Et puis un autre rendez-vous aura lieu le 12 avril, là avec la Caisse d'allocation familiale, qui est partenaire de ça, autour justement d'éviter de se faire pirater. Ou par des gens mal intentionnés. Voilà,
c'est beaucoup plus dans l'esprit famille, là, celle-là du 12, et elle nous tient aussi à cœur parce que c'est la troisième fois qu'on va la faire, celle-là. On l'avait commencé nous-mêmes à faire une conf sur Internet et ses dangers, en fait. Mm-hmm. On avait été demandé par certaines CAF de faire des présentations de ce style où on expliquait aux parents les dangers liés à Internet. C'était déjà à l'époque de Skyblog et compagnie, où les jeunes avaient tendance à laisser des données sur les Skyblog qui n'étaient pas forcément
souhaitables,
voilà, comme les DDPix ou autres. C'est facile de se prendre en photo là tout seul alors qu'en fait c'est à la disposition du monde entier, enfin des choses comme ça. Donc on avait ce fond de roulement là qui était justement de montrer qu'il y a des dangers et il faut les prendre en compte. Et là, maintenant, on le fait avec des représentants tech, donc c'est des gens de la gendarmerie nationale qui viennent nous épauler dans ce cadre-là. Donc nous, on a prévu de faire intervenir 2 personnes d'Intech, enfin c'est des représentants, donc l'adjudant Pollard et le lieutenant Robles, qui vont venir nous parler des risques et des dangers liés à Internet. Et nous, on sera là en parallèle, c'est eux qui vont faire la conf cette fois-ci. Et nous, on est là en parallèle pour, s'il y a des problèmes techniques ou du paramétrage de soft ou autre affaire, on leur expliquera tout ça.
Mais c'est une sensibilisation, justement.
C'est une sensibilisation à tous les dangers liés à MSN et autres, enfin, les dangers liés à l'utilisation d'Internet. Et les parents sont la plupart du temps démunis parce qu'ils n'ont pas cette connaissance de l'Internet nouveau. Alors que les enfants, eux, ont ça sur le téléphone et autres, et ils font pas trop attention à toutes les données qu'ils laissent aujourd'hui et qui pourront être utilisées demain à leur insu.
Sans tomber dans le cliché où l'Internet c'est dangereux.
Parce qu'en fait, il y a une partie. C'est de montrer que c'est aussi bien, il n'y a pas que des mauvais côtés. Il y a des bons côtés et il faut savoir en profiter.
Tout à fait.
Voilà, on retrouve toutes ces informations sur arudezel, le 2 en chiffres, .org. Et puis, l'avenir, ce sera que vous soyez les maîtres du monde et que vous organisez les rencontres mondiales du logiciel libre à Rodez, si j'ai bien compris.
Avec plaisir.
C'est une idée qui vous trotte dans la tête?
Non, on avait participé, en fait, quand Toulouse avait postulé pour faire les RMLL il y a 2 ans. On faisait partie de l'association qui promouvait... qui faisait la promotion, pardon, des RMLL à Toulouse. Voilà, donc, c'est toujours... On n'a pas la capacité, ni au niveau local, on n'aurait pas assez de personnes pour monter les RMLL, il faut être réaliste. C'est quand même une super entreprise et il faut du monde et beaucoup de moyens et on ne les aura pas sur Rodez. Mais aider d'autres villes, oui, ça fait partie de notre...
En tout cas, vous êtes les bienvenus pour y participer en 2014 à Montpellier.
C'est ça.
Voilà.
René-Pierre Guillaumont, ben merci beaucoup. On vous souhaite d'avoir plein d'actions et que tout ça se développe dans le Rouergue. On peut dire ça comme ça. Et puis, on va écouter un petit peu de musique avec donc Reyes Beck qui sera en concert mardi 9 à la Maison pour tous Léo Lagrange, salle Sophie Desmarais, dans le cadre d'Hybride 5. Ce sera juste après le Café Babel qui aura lieu au même endroit en direct sur les ondes de Divergence FM. On écoute un extrait de son album de 2010, Kartek Azaman, l'homme de gauche, et c'est Qu'est-ce qu'on attend ?
On attend quoi au juste? Non, parce que... Bon, on a pas l'air con, hein, c'est ça. Non, faut nous dire, hein, si on n'y va pas, on n'y va pas. Moi, je veux juste savoir, on attend quoi, là? Non, franchement, ça commence à être inquiétant. Je vois des barbares barbus poilus se faire exploser tout le temps. C'est pas marrant. Il faut arrêter l'axe du mal, libérer le monde entier grâce à nos frappes chirurgicales. Depuis que l'Iran rêve de fabriquer la bombe atomique, j'ai des courbatures dans le ventre, une migraine, j'ai même une diarrhée chronique. Ils veulent nous exterminer, paraît que c'est un peuple de tarés, paraît même qu'ils battent leurs femmes, paraît qu'ils puent tous des pieds. Quand je pense qu'on achète leur pétrole, c'est incroyable. On subventionne le terrorisme, on enrichit Ahmadinejad qui, avec ou sans cravate, va tous nous réduire en cendres. Mec, c'est pas de la parano. T'as pas vu ce qu'ils ont fait le 11 septembre? C'est le choc des civilisations. Ils sont encore en Moyen-Âge super rétro. Bah, je suis sûr qu'à Téhéran, ils savent même pas ce que c'est qu'un marteau. Faut qu'on leur apprenne la démocratie, mec. Grâce à nos missiles, qui t'a en payé le prix, qui t'a tué quelques civils. Qu'est-ce qu'on attend? Dis-moi, qu'est-ce qu'on attend? Mais qu'est-ce qu'on attend pour bombarder l'Iran? Pour libérer la ville des barbares, libérer les innocents. Pour nettoyer la planète de tous ces mécréants. Dis-moi, qu'est-ce qu'on attend? Dis-moi, nourrir de la carte. Moi je propose un embargo tout de suite. Privons-les de Coca-Cola, de ketchup et de frites. Coupons les satellites, allez, fini Internet et les télécoms. Ils pourront pas appeler la Russie, ils n'auront jamais le iPhone. Tout comme Saddam et ses armes de destruction massive. Mais vaut prévenir que guérir. Faisons des guerres préventives, il faut des troupes au Pakistan.
Faut que ça bouge en Afghanistan.
Une bonne guerre civile au Liban.
Il faut faire péter Téhéran.
Aidons le Moyen-Orient à se libérer des dictatures. Avec l'aide d'Israël et de l'Arabie Saoudite qui pour les droits de l'homme à nos navires sont déjà dans le golfe Persique. L'Iran est cerné de partout. On attend juste le déclic. Faisons-le pour nos enfants, pour les générations d'après. Car ce n'est qu'en faisant la guerre, eh ben, que l'on aura la paix.
Mais où sont les djihadistes? Mais que fait Laurent?
Mais qu'est-ce qu'on attend pour prendre leur président?
Qu'est-ce qu'on attend? Dites-moi qu'est-ce qu'on attend? Mais qu'est-ce qu'on attend pour bombarder l'Iran? Pour libérer la ville des barbares, libérer les innocents. Pour nettoyer la planète de tous ces mécréants. Dites-moi qu'est-ce qu'on attend? Dites-moi qu'est-ce qu'on attend?
Reyes Beck, rappeur franco-libanais, donc en licence Creative Commons by NCND 3.0. On est avec donc Eve Grimbert et Héloïse Plantroup. Il y a Catherine Pimenta qui est avec nous. Bah, bonjour à toutes les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, on est ici depuis deux jours à Radio Larzac pour une formation sur le logiciel Ardour, qui est un équivalent pour ceux qui connaissent un petit peu de Pro Tools dans le monde du logiciel propriétaire, développé par le très sexy Paul Davis, triathlète et cofondateur d'Amazon.com, ce qui n'est pas rien. Et puis, en fait, vous avez commencé à utiliser Ardour, si j'ai bien compris, il y a à peu près 5 ans à Radio Grésivo, c'est ça?
Oui, c'est tout ça. À fait, c'est
où
ça.
Vous étiez à l'époque, toutes les deux, soit salariés, soit...
On était salariés au début, ouais, toutes les deux. Moi, je suis arrivée un petit peu après Eve, mais je suis arrivée et on m'a mis Ardour entre les mains, ouais.
Et auparavant, ils utilisaient quoi
Ils utilisaient le logiciel PIC depuis un moment.
D'accord.
Mais ça ne fait pas du multipiste. Non. Et puis un autre logiciel horrible que je ne pouvais pas supporter, mais je ne me rappelle plus son nom, je l'ai complètement occulté parce que ça m'a beaucoup traumatisé.
Pas Audacity quand même.
Non. Ah. Oh. Non, mais Audacity est très bien.
Alors, Ardour, qu'est-ce qui vous avait fait découvrir, j'allais dire, Ardour? Comment vous avez vu, ah tiens, il fait du multipiste, on prend Ardour? C'est...
Non, c'est pas ça. Bah, y avait la volonté de passer au logiciel libre, en fait. Et puis, la volonté de pouvoir faire du multipiste aussi. Et puis, il y a eu une solution qui s'est présentée, finalement, c'est que dans l'agglomération grenobloise, il y a une association qui s'appelle Diade Art et Développement, dans laquelle il y a des personnes qui travaillaient déjà avec Ardour depuis un petit moment, je pense depuis peut-être 2 ans ou 3 ans.
Et qui sont un petit peu libristes aussi dans l'esprit.
Voilà, qui sont un petit peu libristes et un peu casse-cou, dans le sens, prêt à bricoler avec ce qu'il y a, et puis dire, ben non, nous, on n'a pas envie de payer des licences et de... Voilà, quoi. Donc, en fait, ces personnes, elles sont venues nous former. Mm-hmm. Et ça n'a pas été facile, forcément, pour tout le monde. Dans une radio, on n'est pas toujours prêt à changer les habitudes de travail. Mm-hmm. Et en fait, j'ai une formation dans le son, donc j'avais travaillé sous Pro Tools. J'avais eu une formation sous Logic Audio Pro. Et puis, quand j'ai découvert Ardour, j'ai laissé tomber tout ça. Puis, j'ai plus...
Parce que tu y retrouvais finalement le même degré d'élaboration au niveau de l'outil. Et puis, le fait qu'il soit libre, c'est quelque chose qui te...
Oui, voilà. Ça, c'était important pour moi. Et puis, je trouvais ça chouette, je trouvais ça classe. Je me disais, tiens, en plus, on peut... ça va évoluer. Et puis, je trouvais que... moi, je suis toujours partie du principe que... Enfin, le bricolage, ça ne me fait pas peur. Et puis, en plus, maintenant, Ardour, on n'est plus tellement dans le bricolage, quoi. Je veux dire, ça a vraiment évolué comme un logiciel. C'est un logiciel sur lequel on peut vraiment compter, qui a des tas d'options intéressantes et qui vaut, pour moi, largement un Pro Tools, quoi.
Tu peux témoigner, Gilles?
Oui, j'ai eu qu'un seul crash du logiciel pendant la formation,
mais
effectivement, oui, c'est puissant et c'est très proche de ce qu'on retrouve dans le monde soi-disant professionnel, etc. Puisque c'est vraiment un outil pensé et développé comme son équivalent propriétaire, quoi.
C'est ça. Et puis, moi, je le montre à mes élèves. Hein. Je suis prof de son dans un BTS. Mes élèves, ils trouvent que Pro Tools c'est plus joli, mais quand même, ils retrouvent. Moi j'aime bien dire qu'on peut s'émanciper aussi de tous ces trucs qui coûtent super cher et vivent plus finalement en communauté d'une certaine façon virtuelle pour manipuler des outils qui rendent tout le monde content.
Est-ce que les outils, en fait, c'est ce qu'on recherche, c'est plutôt des fonctionnalités, des façons de travailler qu'on a appris et que, quel que soit, j'allais dire, l'outil, vaut mieux qu'il rende ce qu'on recherche quand même. C'est-à-dire que ce soit X ou Y, on va plus s'orienter peut-être vers Y parce que on a toutes les fonctionnalités qu'on recherche, on travaille le son d'une certaine manière.
Bien sûr, de toute façon, un logiciel, c'est avant tout des habitudes, une ergonomie de travail. Et effectivement, en fonction de... Alors, si on s'est habitué à travailler sous Audacity, par exemple, évidemment, on a tout un tas d'habitudes qui sont acquises et on a acquis un certain confort de travail. Donc après, évidemment qu'en radio, passer sous Ardour, on peut se poser la question, puisque on n'est pas toujours amené à faire du multipiste. Mais en même temps, après, il y a tout l'aspect de création radiophonique, de reportage, de documentaire qui peut être très, très intéressante avec Ardour, quoi. Mm-hmm. Parce qu'on peut manipuler plein de sons, et puis on peut ajouter des traitements, sur Audacity aussi, bien sûr, mais peut-être avec moins de fluidité pour ce qui est du multipiste.
Oui, parce que c'est Audacity, c'est un éditeur linéaire sur lequel on peut rajouter des pistes virtuelles, mais en aucun cas, c'est, il peut capturer simultanément plusieurs sources audio, ce qui est le cas de, d'un outil multipiste de façon native. Est-ce que, j'imagine que vous utilisez aussi LibreOffice, Resivaudan.
Oui, voilà.
Est-ce que ça a essaimé? Est-ce qu'il reste encore des postes? Est-ce que les postes sont sous Linux?
Quasiment tous.
Ouais, c'est ça.
Pas tous.
Il y a un peu des Mac. Il y a encore quelques postes sous Apple, quoi. Et sinon, bah, tous les journalistes, ils bossent avec Ardour, LibreOffice, ils convertissent leur son dans Sound Converter, voilà.
Et ils convertissent leurs proches au libre aussi.
Bah, en fait, bah, ça, j'en sais rien, ça, c'est leur vie privée.
Non, ce que je veux dire, est-ce que le côté logiciel libre et puis, on va dire, le pari philosophique, idéologique, choix de société qu'il peut y avoir derrière, on imagine bien dans une radio comme Resivaudan, qui, comme toutes les radios non commerciales, ben, c'est quand même plutôt des philanthropes qui font ça au départ, quoi. J'imagine que ce côté-là aussi, le fait que Ardour, ça marche et que les gens sont contents professionnellement, voilà, est-ce que ça les pousse à dire autour d'eux, ouais, mais c'est quand même bien le libre.
Moi c'est ce qui m'est arrivé, ouais. Mm-hmm. Avant, je connaissais pas le libre en fait, avant d'arriver à Radio Grésivaudan. Et pour les personnes qui font du son autour de moi, il y en a pas tellement, mais je leur ai conseillé Ardour, ouais, bien sûr. Et puis chez moi, j'ai aussi une coloc qui s'est mise à Ubuntu.
D'accord.
Voilà, mais quasiment d'elle-même, je l'ai un petit peu incité, mais pas trop.
Après,
Oui, et vous avez vu comme ça une migration au sein de Grésivaudan, donc de logiciels propriétaires, d'OS proprio, vers justement migration vers du libre, et justement tous les stades, on va dire, de production radiophonique, de diffusion basculent au fur et à mesure vers l'automate, j'allais dire.
Oui, c'est ça, Rivendell maintenant est venu habiter dans les locaux de Radio Grésivaudan. Et il y a quelqu'un qui s'en occupe, et qui s'en occupe bien, qui fait la programmation, et ça tourne super.
Qui est venu se former deux ans, ouais. C'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs, à Radio Larzac, voilà. Sur une formation Rivendell.
Voilà, c'est ça, avec l'équipe de Trifon. Mm-hmm. Et après, je dirais, voilà, que il y a eu la volonté de passer au libre. Et puis, ça s'est fait naturellement en plusieurs étapes. Parce qu'au départ, on était sur Ubuntu Studio. Mmh. Et c'était lourd pour les machines qu'on avait. Et du coup, après, on est passé sur un noyau compilé sous Debian. Un noyau pour Ardour, quoi. Et avec un gestionnaire de fenêtres Enlightenment. Mais du coup, donc c'est beaucoup plus léger. Ça permet à Ardour de mieux fonctionner. Après, voilà, pour certains utilisateurs, ils ne trouvent pas toujours... dans la pratique quotidienne de la radio, on n'a pas toujours le temps, si ça bug, s'il y a un truc qu'on ne comprend pas, qui se passe sous Debian ou Enlightenment... ça peut énerver des gens.
Normal.
Voilà. Et je pense que des fois, c'est pas mal d'avoir des personnes ressources, en fait, dans une radio pour. Et je pense que finalement, les radios, elles sont peut-être amenées à évoluer dans ce sens-là. C'est-à-dire d'avoir un programmateur, ok, avoir un animateur, et aussi avoir quelqu'un qui a peut-être un peu plus de connaissances, justement, dans ce domaine, pour accompagner les gens vers une autre pratique. Mmh.
C'est souvent ce que disent les promoteurs de logiciels libres quand ils s'adressent à des grandes entreprises ou à des collectivités, en leur disant « Ok, vous allez faire l'économie de vos 250 000 euros de licence, mais il faut la réinvestir en embauchant, en internalisant la compétence et en embauchant des développeurs, des informaticiens, parce que c'est le libre, c'est pas gratuit, c'est juste une autre façon de procéder qui est plus équitable, plus logique aussi, et etc. quoi. » Donc oui, c'est sûr que les radios ont besoin de geeks. Et alors, on dit souvent aux rencontres mondiales du logiciel libre, on leur dit souvent aux geeks, il y a forcément une radio associative pas loin de chez vous, vous voulez faire connaître vos activités d'install party, allez-y, et puis c'est donnant-donnant, vous leur filez un coup de main, et puis ils vous permettent de communiquer. Enfin, voilà. Et c'est vrai que c'est assez lent à mettre en place, hein, le geek n'est pas toujours ultra communicant.
Et puis il y a deux parties, il y a la partie justement ressources, j'allais dire back-end, plateforme logicielle, système d'exploitation, etc. Et puis il y a la partie métier. quel que soit le domaine, hein, où on fait de la radio avec des outils, on pourrait faire de la bureautique avec d'autres outils, etc., qui sont pas forcément de la même vision que celui qui va installer le logiciel ou faire une correction, etc. Donc il n'a pas forcément la même vue que l'autre utilisateur, il n'est pas forcément utilisateur aussi de la partie métier, j'allais dire, et il ne voit pas tout à fait la même chose. Alors il y en a qui sont bivalents, mais d'autres ne sont pas forcément les deux à la fois. Enfin...
Oui, voilà, c'est ça. Hein. Bah oui, bien sûr. Moi, il se trouve qu'à Grésivaudan, je ne sais pas si c'était bien la question, mais je crois, à Grésivaudan, comme moi, je suis formée sur du son technique, et que mais je suis pas non plus, je peux pas aller très 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 loin. Par exemple, compiler un truc, je sais pas faire, mais je peux dépanner les gens à la radio bien souvent. C'est-à-dire ça bug ceci cela, ou sur du son et un peu sur le côté justement Linux, comment ça marche. Mais des fois ça mériterait peut-être pour poser des choses, pour consolider des postes de travail qui parfois ont des petits soucis ou des trucs comme ça, ouais, ça serait bien.
Ouais. Alors, pour revenir à ceux qui vous y ont amené finalement, là, Diad Art et Développement, ce collectif d'artistes et de techniciens, j'imagine que ça crée aussi des synergies, puisque les gens qui utilisent des logiciels libres, ils partagent ça, ils ont ça en commun, ils ont naturellement plus tendance à aller se filer un coup de main, ce qui est aussi le cas des gens qui faisaient de l'informatique sous Windows il y a une vingtaine d'années. Ah oui, tiens, ouais, on se file un coup de main, etc. Est-ce que ça a créé des synergies avec cette autre structure entre Grésivaudan et Diad, pour parce que eux ils font une web radio, ils font des arts graphiques, des ateliers pédagogiques, ils font pas mal des spectacles, des disques, etc. Donc
oui.
J'imagine que ça a enclenché peut-être certaines actions communes.
Oui, du coup, en effet, oui, Diad, c'est des gens très polyvalents, donc ils continuent à suivre la radio, parce qu'en fait, à l'époque, c'était un peu un test comme ça de tout changer, tout ça. Donc, il y a eu un accord comme ça de dire, on vous installe ça. Eux, c'était la première fois qu'ils le faisaient pour une radio. Donc, pour débugger tous les trucs, en quelque sorte, on est en partenariat, en lien permanent, en discussion permanente pour dire, ça, on a remarqué que ça ne fonctionnait pas. Et de temps en temps, Pascal, la personne de Diad qui nous a installé les Debian, les Ardour et tout, il vient de temps en temps filer un coup de main.
Ça, c'est plutôt cool.
Ça, c'est plutôt cool.
On peut les retrouver sur diad-ade.com, diade-ade.com. On va faire une petite pause musicale, car l'heure tourne, et on parlera juste après de la formation que tu es parti faire au Maroc pour une association qui collecte des musiques et des contes traditionnels. Et puis, on parlera du monophonique, qui est votre projet à toutes les deux. On est toujours donc avec Rayes Beck, rappeur franco-libanais, qui, je vous le rappelle, sera en concert à Montpellier, à la Maison pour tous, Mélou Larange, mardi 9 à la salle Sophie Desmarais dans le cadre du festival Hybride numéro 5. On écoute toujours un extrait de son album L'Homme de Gauche, sorti en 2010. C'est sous licence Creative Commons by NCND 3.0 et ça s'appelle Schizophrénia.
Au Liban, les religions se marient, j'ai pas dû être invité au mariage. Je les ai toujours vus se battre et ça depuis l'âge de 15 ans. Pourtant, on est tous nés innocents. Demande à ma mère, je suis pas né avec un couteau entre les dents. Je débarque dans ce pays, sourire aux lèvres et les yeux tristes. Les voir s'entretuer me rappelle que nous sommes tiers-mondistes. J'ai pas réussi à m'intégrer dans cette société complexe et complexée, toujours annexée. L'excès d'être en marge est vexant, les yeux remplis de vide, de vivre cette vie plastique. Noyé au Pepsi, regard placide, je suis pas vraiment d'ici et pas vraiment d'ailleurs. L'inconscience m'aide à m'éloigner de leur politique le plus que possible. Jamais les pieds sur terre, en tout cas pas sur la leur. Leur terre de merde, leur pierre de marbre, leur martyr chaque jour me navre et les larmes de ma mère. Pour un Paris Beyrouth sans retour, elle savait ce qui nous attendait. J'étais heureux, je ratais les cours, c'était les vacances pour moi. Le soleil et la mer, je pensais pas que j'allais vivre. Le manque de soleil et la mer, et plongé dans la merde jusqu'au cou. Le clash des cultures fut brutal et je cite l'interdiction formelle d'être laïque. Classé comme un dossier par ordre alphabétique. On demande pas ton avis, surtout quand t'es chiite au milieu de la bourgeoisie. Si au moins j'avais choisi, je crois que je restais à Clichy. Aurais passé ma vie, aurais moi si ça valait mieux que supporter leur manque de respect et leur communauté illimitée. Se limiter à qui tu es, ma vie complète. suis devenu schizophrène. جرب تعيش وقتها كل واحد كان فاتح للتاني حساب كانوا يحملوا 9 ميلي انا احمل كتاب رجعت من باريس كنت ولد بريء غير كل شي تركت طفولتي على الطريق قعدنا بالغربية وكنت ادرس بالشرقية ما كنت عارف شو معنات الطائفية تأقلمت قد ما فيه وعشت الافلاس حياتي بلبنان عبارة عن خط التماس طعت بالعقلية والتصرف العنيف بس تشوف بيع بيشتغل لانو نهار بتسد نيعك وما بتنق لعبة ضليتني عصفور طيار بالضياع ما كنت عارف شو معناته لبنان ما استوعب قلة الاحترام بين الأديان حتى بالصف كان في أحزاب بس تتكتش الأرض بتعرف شو طعمة العذاب قد ايه فيك تتجنب وتنسي حالك بدك تعيش مع الكل يعني راح تعيش لحالك صار عمري 29 وما عم شوف الصح من الغلط ما عم بعرف إذا فهمت شي من هيدا البلد
Raïs Beck, une musique en licence Creative Commons by NCND 3.0 pour cette 164e divergence numérique qui est fort écoutée par notre ami Bruno qui fait plein de commentaires très pertinents.
Pro Tools, Ardour, de la vidéo dans Ardour, mais pourquoi pas, c'est un logiciel libre donc ça peut évoluer aussi, on peut très bien aussi insérer des pistes vidéo dans la prochaine version de Ardour, d'ailleurs une version qui est la version 3. Ardour 3.
Oui, oui, voilà.
La version 3 vient de sortir.
Qui n'est pas encore packagée dans les distributions.
À la fin du mois.
Mais qui va l'être. Et donc vous pouvez récupérer d'ailleurs les sources et le compiler si le cœur vous en dit.
Alors un mot à présent sur l'association OCADD. Pour laquelle il y a eu une action au Maroc. Et puis de la formation finalement toujours sur ce logiciel.
Oui, alors c'était quand ? C'était en 2009-2010, en fait. Je travaillais avec Diad sur la web radio La Voix des gens, qui est un projet de Diad. Et donc, à côté de ça, il y avait l'opportunité, en fait, de travailler en lien avec des ONG, le Conseil général de l'Isère et le Conseil, on va dire, général équivalent de la région du Tadla Azilal au Maroc et donc travailler en lien parce que il y avait une demande en fait de la part de l'association OCAD au Maroc de collecter en fait le patrimoine sonore, patrimoine oral de la région du Tadla Azilal. Et donc ce qui s'est passé c'est que avec Diad nous sommes allés rencontrer ces personnes qui sont en fait des universitaires principalement, des étudiants, des profs. Comme au Maroc, il y a toujours pas mal de... Il y a un budget assez conséquent pour tout ce qui est éducation. Ils ont réussi à débloquer en fait des fonds assez importants pour s'équiper d'un petit studio mobile et d'enregistreurs numériques qu'on leur a apporté en fait la première fois qu'on y est allé. Dans le but de donc collecter ce patrimoine sonore, on leur a appris à utiliser Ardour. Mmh. Donc, c'était super, quoi, parce que en fait, bon, pour la plupart, enfin même, ouais, pour la grande grande majorité, c'est des personnes qui de toute façon n'avaient jamais fait de son. En fait, c'est super parce que en fait, c'était des utilisateurs qui avaient aucune habitude avec le son. Et du coup, qui était complètement
ouvert
et
malléable.
Et puis heureux d'apprendre du coup sur quelque chose qu'ils découvraient. Puis en plus heureux de savoir que c'était un logiciel libre, quoi. Donc c'était vraiment chouette. Et du coup, ça a très bien fonctionné. On s'est déplacé un petit peu dans la région et on a fait des prises de son diverses et variées dans des conditions plus ou moins faciles. Et ça les a mis tout de suite dans le bain, en fait. Ils ont appris à faire des enregistrements multipistes tout de suite, alors que, bon, bah voilà, ils savaient pas, ils avaient peu de notions autour du son au départ et peu de notions techniques. Et ensuite, on est revenu une deuxième fois pour consolider un peu les connaissances, puis les habituer à faire du mixage, à faire des exports. Et ils se débrouillent d'ailleurs très bien, on le voit sur leur site.
Voilà, ocadd.org, sur lequel d'ailleurs on peut retrouver quelques-unes des prises de son que vous avez faites là-bas.
Oui, oui, voilà, exactement. Mm-hmm. Notamment à Demnet, à Haït Bouguemes, et c'était dans le Haut Atlas, c'était un endroit très très joli et très très reculé. Et donc c'est rigolo de voir comment dans un endroit comme ça on peut arriver avec un studio mobile et une technologie fine pour finalement permettre à d'autres oreilles d'entendre des chants magnifiques, des chants traditionnels à Mazir. Donc c'était super, c'est une super expérience.
Et donc à présent on va parler du moineau phonique. Là c'est un projet que vous portez toutes les deux, qui consiste finalement pareil à faire de la production sonore autour de sujets que vous choisissez, que vous essayez de tout ça dans une voie de professionnalisation de votre activité de productrice finalement.
Ouais, c'est ça. Mmh. Mmh.
Et ça, le projet il est né comment exactement?
Moi, c'est mon cousin qui m'a dit « Mais pourquoi tu fais pas un site internet où tu mets tes sons? Ça peut être super intéressant. » Et puis, je me suis dit « Ça peut être sympa d'en parler à Eve parce qu'on aura une visibilité plus grande à deux. » Et puis, je me disais que ça pouvait l'intéresser aussi. Et puis, du coup, ça grandit comme ça. On a réfléchi toutes les deux à qu'est-ce que ça pourrait être. Donc, à la base, c'était vraiment pour montrer nos productions sonores, parce que toutes les deux on en fait quand même beaucoup. Pas mal. Et puis voilà, après Eve a proposé qu'on mette l'aspect formation sur le site internet du Moineauphonique. Donc c'est ce qu'on a fait, mais ça a pris beaucoup de temps ce projet. C'était long
à faire.
Ça a pris du temps et puis ça a pris le temps qu'il fallait, quoi. On a dû commencer il y a un an à peu près. À commencer à vouloir faire le site, donner un peu une identité, chercher qu'est-ce qu'on allait mettre dedans. Et finalement, on a lancé ça, c'était au mois de
septembre.
De septembre, ouais. Le 12 septembre, je crois. Je sais plus. Tout début septembre 2012. Et en fait, on fait une newsletter tous les mois en fait à nos abonnés où on met les dernières productions qu'on a faites et des textes aussi parce qu'on écrit et puis où on renvoie sur des liens sur d'autres producteurs éventuellement d'autres productions qui nous ont plu. En fait, on aime bien quand même décrire le monde avec une oreille sensible.
Oui, une oreille qui est une vision qui est finalement la nôtre. C'est vrai que ce qu'on entend dans les médias en général, c'est des sujets qu'on entend, des sujets d'actualité qu'on entend partout. C'est pas vraiment ce qu'on traite. Nous, on est. Enfin voilà, on travaille sur des sujets qui nous posent question en tant qu'êtres humains. En tant que femme aussi, on essaye plus de gratter des sujets dont on n'entend pas forcément parler. On aime bien les sujets tabous. Voilà.
Surtout Héloïse, elle est vachement dans le tabou.
Elle dit rien, mais elle en pense pas moins. On va se quitter en musique et puis peut-être on va laisser Pascal nous annoncer le titre, parce que moi, mon ordinateur était sur batterie, il s'est éteint violemment. Hop, donc je n'ai plus rien devant moi, mais l'ordinateur de Pascal est à côté. On renvoie nos chers agendistes sur agendadulibre.org pour la suite.
Oui.
Parce qu'on n'a pas le temps de détailler quoi que ce soit. Non, on n'a pas le temps, sinon on ne pourra pas écouter Beyrouth, qui est le dernier titre de Reisbeck qu'on va écouter pour se quitter et refermer cette 164e divergence numérique, en remerciant toutes nos invités et nos
merci
invités.
Beaucoup. Merci beaucoup.
Radio Larzac.
On rappelle, c'est le moinophonique.org.
Moinophonique.org.
Voilà. Vous avez tous les liens sur divergence-fm.org.
Voilà, extrait de l'album Hip Hop République sorti en 2011. On rappelle qu'il sera mardi soir en concert à Montpellier. Et on remercie Nicolas Galtier qui a réalisé cette émission.
Es mi país el del café, las flores y las montañas, ahora en B-E-R-R-U-N-T. Es Medio Oriente la fuerza revolucionaria, ahora en B-E-R-R-U-N-T. Traduzco en línea la labor de hacer buen hip hop, escribo versos en favor de la revolución. Resisto y creo que es la unión, la real estrategia del mar Mediterráneo, mis rimas son la marea.
I feel love in the flow down in your veins, B-E-I-R-U-N-T. Na zizi niko bless na niko ndani ya mitaza. B-E-I-R-U-N-T. Hip-hop inasafiri, hip-hop ni bala, hip-hop kila dakika, hip-hop kila saa. Beirut ni roho yangu, na Kenya ni damu yangu, dunia ni watu wangu. Spread love kwa binadamu, Lebanon
Medinti sawra alfarda al kill alwahra. Wuhi el B-E-I-R-U-N-T. Kil bikhaf dinna bismaع aladain wajras anna. Wuhi el B-E-I-R-U-N-T. Anna hadara بازي عالم اهدي حق بايضة فاردي رأينا رغم المؤسسات الفاسدة واللي كلها كاسبة دنيا حاسدة بلادي بقارع لا غيرة ام عولادي نحنا من اعظم الشعوب من ايام اجدادي
ما انفاق يا سبي ناس تمي بعدا تموي دوسا B-E-I-R-U-N-T بنزان اونيو نبون تهم بوم ياهي ساحي بابو دوسا B-E-I-R-U-N-T دوغانا خيدا من شوار ما ماخي كيدا دا اسكيني دا بومي سيدا إلن بنزان إبات إبا ang wika na may isang kultura paniniwala't hilig ay ang sumulat ng kantat ng daming ipahiwatig.
Ich seh rich kids in Porsche und Soldaten Jeep in B-E-I-R-U-N-T. Ich hör 2 Millionen Stories, alle handeln vom Krieg in B-E-I-R-U-N-T. Libanesisches Weed, Fatouche und Taboulé. Taxifahrer rufen meinen Namen, wenn ich geh. Sushi, Bars und Cafés, Kirchen und Moscheen. Komm hierher und fick dein Klischee.
Hallo Salafik, بين المجرم واليتيم B-E-I-R-U-N-T. هون فيك تختار بين الفاشل والعظيم B-E-I-R-U-N-T. روحي بايضة بمدينة سودة وين معظم الشباب ناطرين الثورة. تفضل استمتع ببحر الطوائف اشلح اما شغل المعارف.
Nein, es ist nicht wie du denkst, nicht wie die Bilder, die man kennt, denn es ist B-E-I-R-U-N-T. Bitte glaub nicht, was sie erzählen, hier gibt es mehr als Krieg und Tränen, denn es ist B-E-I-R-U-N-T. Lamborghini oder Panzermann, die G's, sie cruisen anders, schießen Peace-Zeichen mit Popguns an Fassaden von Alhambra. Vergiss mal alles, was dir irgendwer gesagt hat über diesen Part vom Erdball. Man will nicht weg und immer wieder Herr von Eschmann, es sind in der Mehrzahl, weil sie ein warmes Herz am Lebanon, Jedem, Bella, denn Ossa, ihr seht.
Mad Max aus Hamburg, Digga. Beirut, baby.
Diana Vega desde Colombia, Bogotá.
Piranha, what up?
Malika, 9-6-1.
Nazizi, the first lady from Kenya.
Respect, min Beirut.